Chapitre 4. Comment ? Vous êtes déjà arrivé ? S'écria Jacques de Boufflers en apercevant dans le vestibule M. de Gueldre qui ôtait son pardessus. Oui, j'ai pris le chemin de traverse. Il n'était pas plus défoncé que la route. Et voyant que la marquise allait monter chez elle, il lui dit « Madame de Chavannes et Yvonne vous attendent dans la bibliothèque. »« Ah ! » fit-elle, contrariée. Yvonne, qui préparait le thé, accourut au-devant d'elle, demandant « Eh bien, avez-vous fait bon voyage ?» Madame de Gueldre répondit distraitement « Très bon, et vous ?»« Oh, nous !» cria Fauché, occupé à se frictionner le bras. « Nous avons eu une épouvantable traversée. » « Oui, une traversée. Ça ne peut pas s'appeler autrement. Une humidité qui vous pénètre jusqu'au plus profond. Il y a de quoi attraper le coup de la mort. Dans ce moment-ci, je sens dans chacun de mes os une sensation atroce. C'est comme si, avec un fer froid, on me labourait la moelle. » Ordinairement, la description fantaisiste des innombrables maladies de Fauché faisait rire la marquise. Comme elle restait silencieuse, l'œil vague, regardant sans voir, Yvonne demanda « Vous êtes fatiguée, n'est-ce pas, madame ?» Elle répondit, rappelée à elle-même « Mais non, pourquoi ?»« Parce que vous avez une drôle de tête, » dit Fauché. « Une tête pas du tout naturelle. » Décontenancée, elle murmura « Moi ?» Mais M. de Gueldre dit, s'adressant à Fauché, « Tu sais bien que Liane est comme ça chaque fois qu'elle se lève de bonne heure. Laisse-la donc tranquille. » « Elle se reposera, et demain matin il n'y paraîtra plus, » dit Madame de Chavannes. La marquise se récria. « Je me reposerai, demain. Oui, joliment, je pars pour Paris demain matin. Il faut que je sois à une heure impossible à Vannes. »« Ah, c'est vrai, » fit le marquis. « Je l'avais oublié. » Et il ajouta, après un instant de réflexion, « Vous n'avez pas besoin de moi pour vous aider à surveiller les travaux ?»« Oh, pas du tout. Je ne vais d'ailleurs pas là-bas pour surveiller les travaux, mais seulement... pour enlever différents bibelots de ma chambre et de l'atelier, parce que je ne veux pas que les concierges y touchent. Si on avait pu attendre pour faire ces changements. » M. de Gueldre répondit « C'est impossible. L'architecte m'écrit que si on ne commence pas tout de suite, le mur peut se lézarder. « Va-t'en donc et couche-toi. Tu n'en peux plus, » conseilla Madame de Chavannes. La marquise ne demandait qu'à s'en aller. Non pas pour se coucher, elle n'avait pas sommeil, certes, mais pour être enfin délivré de cette contrainte qui l'étouffait. En traversant le petit salon qui précède sa chambre, son regard rencontra une photographie de Bernard de Mons et elle pensa « La passionnette, qui devenir à son heure, est-ce que ce serait ça ?» Rentrée enfin chez elle, accablée de caresses par Toquet Blanc, tout surpris de sa froideur, elle comprit qu'elle n'avait en ce moment qu'une pensée, qu'une idée fixe, revoir M. de Guibray. Ainsi, ce monsieur qu'elle connaissait à peine la veille tenait maintenant la première place dans sa vie. Et comment avait-il pris cette place? Était-ce en l'éblouissant par son esprit ou en lui révélant une âme exquise? C'était tout simplement en faisant ce qu'il eût fait avec une fille. Cela surtout paraissait à Liane fantastique et monstrueux. Au jour, elle s'endormit, le cœur inquiet et le corps brisé, se répétant comme seule consolation « Enfin, heureusement, je pars. » En arrivant à la gare de Vannes, M. de Gueldre, qui accompagnait sa femme, s'écria « Tiens, Guibray, qu'est-ce qu'il peut faire ici ?»« M. de Guibray, » répéta Liane, sans même savoir ce qu'elle disait. Elle se souvenait maintenant que la veille, à Elven, elle avait raconté qu'elle partait ce matin par l'express et que le vicomte lui avait dit qu'il viendrait la saluer à la gare. Croyant à une plaisanterie, elle n'y avait pas pris garde. Et il était venu. Elle allait être obligée de lui parler. Elle se demandait, toute décontenancée, « Quelle tête vais-je faire ?» Et aussitôt, cette pensée lui vint, « Elle doit être jolie, ma tête. » En se levant, pâle et les yeux battus, elle s'était trouvée laide. Et l'idée d'être trouvée laide aussi par M. de Guibray lui paraissait insupportable. Le vicomte semblait très absorbé dans la contemplation de la bibliothèque de la gare. Ce fut M. de Gueldre qui le héla. Il arriva, souriant, et Liane, retrouvant son sang-froid, lui dit tout de suite « Comment ? Vous êtes venu vraiment ? Je ne croyais pas que vous aviez parlé sérieusement. » Il répondit, sans qu'on pût savoir exactement s'il plaisantait « Je parle toujours sérieusement, marquise. » Et s'informant d'un ton poli et indifférent « Allez-vous être longtemps absente ? » Non, 5 ou 6 jours seulement. Je ne veux pas laisser Madame de Chavannes seule. Si je n'avais pas été absolument obligé d'aller à Paris cette semaine pour des arrangements de maison. » Comme le marquis regardait attentivement le train qui entrait en gare, M. de Guibray enveloppa Liane d'un regard caressant en répondant du même ton indifférent et tranquille. « Oh, d'autant plus que Paris, par cette chaleur. » Sous le regard du jeune homme, Madame de Gueldre avait senti qu'elle rougissait. Elle chercha à continuer la conversation, mais s'entendant balbutier, elle pensa « J'aime mieux me taire. Je dirai quelques bêtises. » Et regardant le vicomte qui, à présent, causait aimablement avec son mari, « Ah, on voit bien qu'il a l'habitude de ces situations-là, lui. » Quand le train partit et qu'elle cessa d'apercevoir M. de Guibray, qui, immobile sur le quai, la saluait une dernière fois, elle regretta de n'être pas restée à Kildare. Il lui sembla qu'elle fuyait le bonheur, et pendant les longues heures que dura cet interminable trajet, elle essaya vainement, non pas même d'analyser, elle était incapable d'aucune analyse, mais de comprendre ce qui se passait en elle. Elle qui, si souvent, avait ri du grotesque coup de foudre auquel, d'ailleurs, elle ne croyait pas. Était-ce donc cela, le coup de foudre? Non, elle n'aimait pas, elle ne pouvait pas aimer. Quand on aimait, on voyait sans doute en beau celui qu'on aimait. On se plaisait à l'idéaliser. On lui attribuait toutes les supériorités. Elle, au contraire, distinguait mieux que jamais les travers de M. de Guibray. Elle le jugeait tel qu'il était, croyait-elle, et le jugeait sans indulgence. Profondément blessée de la façon dont il l'avait traitée, elle lui pardonnait cependant. Elle eût voulu ne jamais le revoir, et elle s'avouait que pour le revoir, elle irait n'importe où et ferait n'importe quoi. Enfin, elle sentait, et cela pour la première fois de sa vie, qu'elle n'était plus maîtresse d'elle-même, et se considérant avec l'extrême sincérité qu'elle apportait en toute chose, elle se trouvait profondément ridicule. Le lendemain matin, éveillée par les ouvriers, elle se leva à 9 heures. La fenêtre de sa chambre ouvrait sur l'avenue de l'Impératrice, et elle fut étonnée de la quantité de cavaliers qu'elle voyait passer. Elle ne croyait pas qu'il y eût encore quelqu'un à Paris au mois d'août, et tout de suite elle pensa « Je vais aller faire un tour au bois, cela me secourra, j'en ai besoin. » Elle habitait tout près du bois. Elle fut en quelques minutes à l'allée des poteaux, qu'elle longea en prenant le petit sentier des piétons. Un cavalier venait au galop à sa rencontre. Il arrêta brutalement son cheval, qui s'écrasa en étoile au milieu de l'allée. Puis, lâchant les rênes et levant les bras au ciel, le monsieur s'écria d'un air abruti d'étonnement « Madame de Gueldre, ah ça, qu'est-ce que vous avez donc fait qu'on vous envoie en pénitence à Paris ?» La marquise prit son lorgnon et reconnut le baron de Juvisy. Elle n'aimait pas beaucoup ce gros garçon, un peu ivrogne et horriblement mal élevé. Pas méchant au fond et plein d'esprit, mais très grossier, malgré son origine, ses relations et ses innombrables bonnes fortunes. Lorsqu'elle était très jeune et tout à fait inexpérimentée, Juvisy, qui la trouvait gentille et lui faisait la cour, l'avait compromise autant qu'il l'avait pu, s'amusant à afficher cette petite femme que le monde lui donnait pour maîtresse, alors qu'il lui avait à peine baisé le bout des doigts. Quand elle s'était aperçue de ce qui se passait, Madame de Gueldre avait dit durement et crûment à Juvisy ce qu'elle pensait de cette façon de faire, l'invitant à venir chez elle le moins possible. Depuis ce temps, il y avait 10 ans de cela, le gros Juvisy ne se souvenait plus de l'aventure, mais Liane, elle, se la rappelait comme au premier jour. Elle passait sans s'arrêter. Il fit entrer son cheval dans le taillis et regardant Madame de Gueldre d'un air convaincu, « Matin, vous êtes toujours jolie, vous. Et vous toujours aussi mal élevée. » « Oh, des gros mots, voyons, chère petite madame. Dites-moi un peu ce que vous faites à Paris par 30 degrés de chaleur. » « Je suis ici pour surveiller des travaux qu'on commence dans la maison. » « Ah non !»« Comment ça, ah non ?» Juvisy se mit à rire. « C'est bien usé, vous savez, le coût des travaux à surveiller. On a remplacé ça d'abord par le dentiste. Oui, les petites femmes qui, pendant l'été, avaient le désir, bien légitime d'ailleurs, de venir à Paris en garçon. » Se découvrait une dent à faire arranger. Et comme la marquise faisait un mouvement, il continua. « Mais c'est devenu vieux jeu aussi, la dent. À présent, c'est M. Pasteur qui sert de paravent. Toutes les jolies femmes ont plus ou moins un petit chien, n'est-ce pas? eh bien, elles se font mordre par le petit chien, s'il est de bonne volonté, sinon elles se mordent elles-mêmes, et on les expédie à Paris dans les 48 heures. C'est le dernier prétexte à la mode. Liane, énervée, mâchonnait sans répondre une petite feuille qu'elle venait de cueillir. Juvisy reprit. « Vous ne me ferez pas croire que vous vous amusez à la campagne. Il est tout naturel qu'une femme comme vous fasse de temps à autre une petite fugue. Et on ne peut vraiment pas lui en savoir mauvais gré. Le Paris du mois d'août n'est d'ailleurs ni si ennuyeux, ni si désert qu'on veut bien le dire. Vous allez voir que vous y retrouverez des amis. » Il s'arrêta un instant et ajouta d'un air malin. « De Mons, par exemple, il est revenu de Deauville hier. » Avec cette finesse particulière aux amoureux évincés qui flairent leurs successeurs et redoutent, c'est une simple question d'amour-propre, de les voir réussir où eux ont échoué. Juvisy avait remarqué que Bernard, il y avait un an, recherchait toutes les occasions de rencontrer Madame de Gueldre, qu'ensuite il l'évitait avec le même soin qu'il mettait auparavant à la rejoindre, qu'en même temps qu'elle, il avait quitté Paris et qu'il y rentrait en même temps qu'elle. Il n'en fallait pas davantage pour qu'il affirmât, de la meilleure foi du monde, que Liane était la maîtresse de Bernard. Madame de Gueldre comprit ce qui se passait dans son esprit et, cinglée par ce soupçon, elle allait répondre quand Juvisy s'écria joyeusement « Et justement le voilà, ce bon Bernard !» À la vue de Liane, M. de Mons, qui passait dans l'allée, s'arrêta et entrant aussi sous bois. « Comment ? Vous êtes ici, madame ?» Sans laisser parler la marquise, Juvisy répondit « N'est-ce pas ? Ça semble bizarre de voir ici par ce temps Madame de Gueldre qui déteste si fort la chaleur. Je lui demandais précisément à quelle cause je devais le plaisir de l'avoir rencontrée, mais il paraît que ma demande était indiscrète, car elle y a répondu en me racontant des couleurs. » Liane pâlit comme cela lui arrivait quand elle était vraiment en colère. Juvisy sentit qu'il était allé un peu loin. Il fit reculer son cheval et, saluant, s'éloigna en criant à Bernard « Peut-être serez-vous plus heureux que moi. » M. de Mons connaissait bien la marquise, et il la devinait énervée, prête à pleurer, les cils battants, les lèvres tremblantes. Elle écrasait du bout de son pied une touffe d'herbe, évitant de laisser voir en ce moment son visage. Il demanda doucement, en riant, « Je suis sûr qu'il a encore fait quelques sottises, cet animal. » Madame de Gueldre se mit à rire aussi. Bernard continua. « Est-ce que vous êtes à Paris pour longtemps ?»« Non, pour quelques jours. » Deux mois plus tôt, rencontrant M. de Mons dans les mêmes conditions, elle eut certainement dit « Venez donc déjeuner ou dîner avec moi. » Elle n'osa pas. Depuis l'explication qu'ils avaient eue ensemble au moment de son départ, elle se sentait mal à l'aise avec lui. Il reprit « Vous ne savez pas ? La semaine passée, j'ai failli aller tout près de vous. » « Où donc ? Chez les Montreux. » Montreux, que j'ai rencontré aux courses de Deauville, voulait absolument m'emmener. Et pourquoi n'êtes-vous pas venu ? Mais tout de suite, craignant la réponse de Bernard, elle continua. Vous avez bien fait d'ailleurs. Vous ne vous amuseriez pas du tout là-bas. Vous êtes trop à la tête du mouvement mondain pour aller vous enterrer, ne fût-ce que deux jours, au fond de la Bretagne. Bernard parut contrarié. Ce n'est pas gentil à vous de me dire cela, car je sais votre dédain pour ce que vous appelez le mouvement mondain, et surtout pour ceux qui le mènent. Mondain, parce qu'on me voit partout, n'est-ce pas ? Parce que j'irai cet hiver à Nice, pour le carnaval, et que je viens de passer la grande semaine à Deauville. Parce que, écœuré de tout ce que je connais, et privé de tout ce que je voudrais connaître, je me secoue tant que je peux. Vous ne comprenez pas, vous, qu'on ait le désir de se secouer ? Si, dit Liane, distraite, songeant que, depuis le matin, elle comprenait ce désir-là. M. de Mons la regarda attentivement et demanda « Est-ce que vous avez du chagrin ?» Dites « Non, pourquoi du chagrin ?»« Mais d'abord, vous venez de me répondre ainsi que j'ai trouvé très vécu. Ensuite, vous n'avez pas la mine gaie que je suis habitué à vous voir. Vous n'êtes pas ce matin le bon garçon que nous connaissons. » Elle semblait embarrassée, il reprit « Oh, soyez tranquille, je ne vais pas jouer les Juvisy. » « Au revoir, madame. » Il s'inclina pour prendre sa main qu'elle lui tendait, et elle eut en le regardant la perception très nette que dans l'œil moqueur qui se posait sur elle, il y avait mille fois plus de tendresse et de chaleur que dans l'œil caressant de M. de Guibray. Elle comprit que Bernard l'aimait vraiment, tandis que l'autre avait à peine pour elle un caprice. Mais elle comprit aussi que c'était l'autre qu'elle allait aimer. Elle eut envie de crier la vérité à M. de Mons, de lui tout avouer, tout. Quelque honte qu'elle en dût éprouver. Il lui avait dit « Vous n'aurez jamais de meilleur ami que moi ». Elle savait bien que ce jour-là, comme toujours, il disait vrai. Et elle avait en lui une confiance absolue. Elle fit un mouvement pour retenir la main qu'elle sentait devenir moite dans la sienne, mais à ce moment Juvisy revenait, allant vers Paris. Bernard lui cria « Attendez-moi, je vais avec vous ». Et saluant rapidement la marquise, il rentra dans l'allée et fila au grand trot. Madame de Gueldre revint chez elle plus hésitante et plus troublée encore que le matin. Elle surveilla le déplacement de ses bibelots, vérifia les plans et les devis de l'architecte et se mit à peindre. Elle comptait profiter de ces 4 ou 5 jours de solitude pour finir une toile promise au curé de Kildar. Mais elle constata bien vite qu'il lui était impossible de travailler. Au lieu d'être là, sa pensée l'emmenait bien loin, dans la vieille auberge du bourg. Elle revoyait la salle triste et noire, la petite bonne apportant les roses toutes trempées de pluie, Madame de Chavannes souriante et aimable, dans sa jolie toilette claire, Fauché grognant sans désemparer de l'arrivée au départ, les lampes fumantes, Jacques grimpé sur son bahut, Lagardy crotté, et surtout Monsieur de Guibray. Monsieur de Guibray lui disant d'une voix câline « Je ne trouve pas, moi, que cette partie soit manquée. Je me suis beaucoup amusé. » Et ce retour en voiture, la nuit. Comment avait-elle pu supporter d'être traitée ainsi? Comment ne s'était-elle pas révoltée à l'instant, avant même d'avoir le temps de comprendre? À ce souvenir qui la remuait toute, elle se leva et fit quelques pas dans l'atelier. Puis, brusquement, elle sonna et écrivit « Marquis de Gueldre, château de Kildar, Vannes, Morbihan. Envoyez voiture au train demain matin, je pars ce soir, Liane. »